Pauline Pucciano, Le Porphyre et l'Albâtre, chapitre 16, Cavalier seul. C'était la première fois depuis 20 ans que Fer était seul. Il venait de laisser les frères sombres sous la montagne et prenait maintenant le chemin d'Albâtre. Le sentier était étroit, mais encore tracé. Il n'était pas pressé, et un sentiment de liberté lui montait à la tête comme un vin capiteux. Il faisait un temps frais et beau, de demi-saison. Les senteurs végétales, les rayons de lumière oblique qui traversaient les feuillages, les chants irréguliers des oiseaux, tout semblait prendre un relief singulier, la résonance particulière d'une aube. L'excellente condition physique dans laquelle se trouvait Fer, son appétit de changement, son excitation à l'idée de retrouver Sornard et de se ruer au devant du destin, se fondait en une délicieuse euphorie. Le temps qui s'était figé lamentablement pendant 12 ans venait de se remettre en branle, la masse humaine dans laquelle il avait été immergé jusqu'à en oublier sa propre identité venait de se dissoudre, et il restait seul, debout dans ce champ de possibles infiniment ouvert, empli d'une force accumulée patiemment, prête à déborder. Il profita pendant plusieurs heures de ce sentiment intérieur, puis, insidieusement, il le questionna. Était-il normal que l'abandon de la guilde lui fît ressentir ce violent sentiment de libération? Cela n'était-il pas le signe qu'il se sentait la plupart du temps enfermé? Le souvenir uniforme et maussade des 12 années à la cité monastère lui revint. Oui, il s'était senti enfermé dans ce cirque de montagnes immobiles, prisonnier de cette attente indéfinie. Ce n'était pas la compagnie de ses frères qui lui liait les mains, mais plutôt l'immobilisme dans lequel il s'était maintenu, comme en apnée, pendant toutes ces années d'exercice et d'ennui. Le destin s'était remis en marche, et c'était ce mouvement irrésistible qui l'enivrait. Fer fit appel à l'esprit pour acquérir plus de lucidité, et il reconnut que la solitude, en elle-même, le simple fait que personne ne sût où il se trouvait, l'emplissait d'une joie presque incontrôlable. Il cessa de se questionner, et décida de vivre ce sentiment avec toute l'intensité dont il était capable. Il y songerait plus tard. Une fiction était sur le point d'éclore dans sa tête, tentante, mystérieuse, envoûtante. Il avait envie de suivre son fil, de dérouler ses riches couleurs, mais il était rompu à 20 années d'exercice spirituel et de contrôle de soi. Les fantasmes n'étaient pas les bienvenus au sein de la guilde de l'ombre, et on les chassait ordinairement à coups de pied, à coups de poing, dans le goût du sang ou le vertige du jeûne. Le sentiment de liberté qu'il éprouvait était néanmoins si fort qu'il lui parut que ce voyage formait une parenthèse, une bulle entièrement close à la surface noire de sa vie. Quoi qu'il fît, cela n'aurait aucune conséquence sur le destin vers lequel il marchait. Rien n'empêcherait plus désormais qu'il accomplît ce pourquoi il avait attendu 12 ans, ce pourquoi le maître l'avait choisi. Il lui fournirait, le jour venu, la réserve spirituelle dont il aurait besoin et assisterait à sa seconde incarnation. La vie, ensuite, ne ressemblerait plus à rien de ce qu'il avait connu. Le maître, revenu dans toute sa puissance, reprendrait l'emprise qu'il avait été contraint de relâcher et étendrait sa domination d'une manière inédite. Il n'avait connu Sornard que plongé dans d'austères études, regardant toujours vers un au-delà. Il ne savait pas ce que cet esprit démesuré accomplirait dans la pleine possession de ses moyens physiques et spirituels, ayant vaincu la mort et plein d'un désir de domination terrestre. Cela l'emplissait d'une certaine excitation, mais aussi d'une certaine inquiétude. Le but de son voyage avait quelque chose de terrible, et pourtant le chemin qu'il empruntait ne lui avait jamais paru si paisible et serein. La nature paraissait en ordre, empreinte d'une harmonie cosmique, et dans sa solitude, il avait le sentiment d'être lui-même une part heureuse de ce monde physique, participant par les yeux, les narines, les battements de son cœur, à la grande coulée de sève du monde. Têtu comme un rêve qui reprend possession du dormeur aussitôt qu'il referme les yeux, la fiction réapparut au bord de son esprit. Il ne faisait pas partie de la guilde, c'était là son verbe initial. Il était un voyageur sans bagages, un homme au passé aventureux, qui se trouvait en ce matin clair le cœur tranquille et les mains vides. il allait vers Albâtre pour retrouver sa cité natale dont il avait été éloigné pendant 15 longues années. Il avait envie de savourer un verre de vin de rose et des beignets de pétales. Il avait envie d'entendre de la musique dans les jardins parfumés. Alors qu'il se prenait au jeu de son fantasme, des souvenirs réels lui remontèrent de son enfance en Hauteville. Cela lui paraissait vague et mythique, et il songea que le lieu de son enfance, défiguré par les changements politiques autant que par l'érosion du temps, avait probablement disparu. L'impermanence des lieux, pensa-t-il, nous frappe souvent plus que celle des instants, à laquelle nous sommes habitués, ou que celle des corps, dont nous faisons journellement l'expérience. Les lieux sont à notre imagination des morceaux du monde éternel, et nous nous raccrochons à la possibilité de revenir à eux, un jour, afin qu'aucun départ ne soit irréversible. Mais il s'agit d'un leurre, et lorsque les lieux nous apparaissent dans toute leur essentielle fugacité, c'est comme si la substance même du monde s'évaporait, comme si notre représentation la plus solide volait en éclats, et cela nous plonge dans un sentiment de fragilité et d'évanescence presque insupportable. Ces réflexions prenaient un caractère mélancolique qui ne lui déplaisait pas. La nostalgie, comme tous les autres sentiments inutiles, était bannie avec la plus grande rigueur par les frères sombres, mais Fer éprouvait un délicieux sentiment d'interdit en s'adonnant à cette tristesse du sage qui se consterne d'une vérité qu'il est le seul à percevoir. Le héros de sa petite fiction prenait forme. Il était un voyageur désabusé et mélancolique, revenant à sa terre natale après avoir souffert dans une longue errance. Cette idée lui plaisait. Elle revenait s'imposer lorsqu'il pensait à autre chose. Elle trouvait des raisons pour exister en lui. Par exemple, il lui faudrait bien une identité d'emprunt pour s'installer à Albâtre. Les gens lui adresseraient la parole, le questionneraient. Et jusqu'à la seconde incarnation, qui ne serait probablement pas immédiate, il lui faudrait vivre parmi eux comme s'il était leur semblable. Pourtant, il ne l'était pas. Il méprisait leur faiblesse et leur appétit de jouissance. Il connaissait des techniques spirituelles dont pas un d'entre eux ne soupçonnait l'existence. Il avait ce qu'ils appelaient dans leur pauvre verbe « du sang sur les mains ». Ce n'était pas ainsi que Fer pensait à la mort qu'il avait donnée et à laquelle il s'était exposé de multiples fois. La mort n'était pas redoutée par les frères sombres. Elle n'était qu'un outil comme un autre dans la poursuite de leur but. Le souvenir de Sarge survint en lui. Sa mort avait été nécessaire, et pourtant, l'acte lui avait répugné. Fer se demanda pourquoi, et parvint à la conclusion qu'il en avait été le seul décisionnaire. Beaucoup de ses actions passées avaient été effectuées sous l'autorité du maître, ou de Joris, et cette expérience-là, celle de l'obéissance, le séparait aussi des citoyens d'Albâtre. Il n'était point question, à l'intérieur de la guilde, d'épuiser son esprit en des verbiages infinis, de discuter ad nauseam du pour et du contre. La délibération n'appartenait pas aux frères, qui ne recevaient que le message, pur et simple, qui émanait du maître. Il y avait une merveilleuse clarté dans cette chaîne hiérarchique, et surtout, une paix profonde. Abdiquer sa volonté au profit d'un maître libérait l'esprit de tous les sentiments qui l'assaillaient lors d'une prise de décision. Une vie sans dilemme, sans regret, sans hésitation. Une vie droite et simple, comme une ligne. Fort de cette profession de foi intérieure, Fer marcha l'esprit vide pendant un long moment, avec le sentiment d'être dans le droit chemin. Il fut surpris dans cette solitude de percevoir d'abord un fumet, puis des bruits d'ustensiles, et de voir le sentier bordé sur sa droite un vaste terrain fraîchement déboisé et aménagé. Il reconnut quelques plantes médicinales dans un petit enclos et se demanda depuis quand cette portion de la forêt était habitée. Il ne tarda pas à rencontrer une femme d'une quarantaine d'années qui s'affairait autour d'un poulailler. Elle n'avait pas de pierre frontale et parut un peu effrayée à son aspect. « D'où venez-vous » demanda-t-elle sans aménité. Fer se fit une image mentale de lui-même, ses vêtements noirs passablement usés, sa pierre frontale, ses muscles saillants, son visage qui avait perdu l'habitude de sourire et qui s'était figé dans les plis d'une expression sévère. « Je suis un voyageur qui revient vers sa terre natale, » dit-il d'une voix douce. La femme parut se rassérénée quelque peu. « Ah ! Vous retournez à Albâtre ? » Fer toucha sa pierre frontale et dit en souriant, « On ne peut rien vous cacher. Auriez-vous quelque chose à manger pour un voyageur ?»« Bien sûr, ne bougez pas. » Elle pénétra dans la cabane tout en le surveillant du coin de l'œil et ressortit assez vite avec une assiette fumante et une cuillère en bois. Il la remercia d'un geste protocolaire qu'elle ne connaissait probablement pas et qui la fit sourire. « Ça fait longtemps que vous avez quitté Albâtre ? » 15 ans. Ah, alors vous n'avez pas connu la Révolution ?
Non, en effet, mais j'en ai entendu parler.
Et vous, qu'est-ce qui vous appelle à vivre ainsi retiré ?
Moi, j'ai toujours été un peu sauvage et la ville basse me convenait très bien. Je n'ai pas aimé le mode de vie qu'Albâtre m'imposait. La ville basse s'est vidée petit à petit, les bas citoyens ont dû se mélanger avec les autres. La plupart portent maintenant des pierres frontales et passent leur temps libre à l'école. Ce n'est pas pour moi.
Pourquoi ? Demanda Fer, sincèrement curieux. J'aurais cru au contraire que les bas citoyens avaient été les grands gagnants de cette révolution.
Que regrettez-vous ? L'exploitation des guildes ? La misère ?
Une forme de liberté, je pense.
N'êtes-vous pas plus libre à présent ? Vous pouvez participer au débat, au vote, accéder à l'instruction.
Je ne parle pas de ça.
Quelle liberté, alors ?
Celle de ne pas adhérer à la communauté, d'être en marge, de penser à rebrousse-poil et de marcher dans le mauvais sens. Quand j'étais une basse citoyenne, personne n'essayait de me convaincre. J'avais mes croyances et personne pour me dire que la religion était archaïque. J'avais ma façon de vivre, qui n'était peut-être pas juste, mais je menais ma barque comme je l'entendais. Et je n'étais pas obligée d'argumenter quand je donnais mon avis, ni obligée de participer à leurs satanés travaux d'intérêt général.
Je ne comprends pas, dit Fer, tout en mangeant le ragoût, auquel il trouva un goût désagréable.
Toutes leurs règles, leur politesse, leur communauté, leur intérêt général, c'est pas pour moi. Leur société est sans doute plus juste, mais moi, je n'en fais plus partie.
Fer haussa les épaules.
Alors vous vous êtes installé ici, seul?
Non, j'avais mon homme avec moi au début, mais une fièvre l'a emporté il y a quelques années. Mais depuis, je me débrouille.
Fer la dévisagea. Elle n'était pas laide. Son visage tanné par le grand air avait pris une certaine noblesse. Que devait-il faire en tant que frère sombre ? Certainement la remercier sans éveiller son attention et se hâter vers Albâtre. Mais le voyageur désabusé qui revenait d'exil, qu'aurait-il fait ? Il se glissa dans la peau du personnage et, presque immédiatement, ressentit pour elle un désir compulsif. L'appel de la chair était impérieux et la femme le perçut aussitôt. Son expression se voila d'inquiétude et elle recula instinctivement vers la porte. Il fit luire sa pierre frontale. « N'ayez pas peur, madame. Partagez plutôt mon désir de rompre un instant votre solitude et la mienne. » Elle secoua la tête et lui sourit, inconsciente d'avoir été contrainte. Fer se vit lui-même, dans un étrange dédoublement de sa personne, déposer son repas, avancer vers elle et l'empoigner. Il assista comme un étranger au début de leurs ébats, puis les sensations physiques furent si vives qu'il fut comme englouti en elles. Lorsqu'il reprit une conscience nette de ce qui se passait, la femme s'était déjà dégagée et arrangeait sa jupe.
« Vous, vous êtes un rapide !» ironisa-t-elle. « J'avais toujours cru que les hauts citoyens y mettaient plus de forme. »
Fer ressentit une certaine honte, et ce sentiment lui fut infiniment désagréable. Il venait de déroger à toutes les lois de la guilde et s'était comporté comme une brute incapable de se contenir. La colère qu'il éprouvait devait se lire dans ses yeux, car la femme rentra précipitamment dans sa cabane et s'y enferma. Il n'avait plus rien à faire ici, et reprit son chemin, les jambes un peu chancelantes. Il fit appel à l'esprit pour recouvrer tout son calme et maîtriser les émotions ineptes que cette femme lui avait fait ressentir. Le désir physique, la jouissance, la honte, finirent par se dissoudre au rythme de sa marche et des litanies du silence qu'il se récita pendant plusieurs heures. Le silence m'enveloppe et bouche mes oreilles. Le silence entre en moi et ralentit mon cœur. Le silence circule en moi et expurge toute pensée. Je respire le silence, j'incorpore le silence, je suis le silence. À la tombée de la nuit, il se sentait à nouveau dans son état normal. L'épisode qu'il venait de vivre s'était perdu dans la distance, et il n'y pensait plus. Les actes sans conséquences pouvaient être facilement oubliés, il suffisait de le vouloir. Cependant, quelque chose continuait à le perturber, et ce n'était pas l'acte physique. Il repensait au choix de cette femme, au choix de vivre seul plutôt que de bénéficier de tout ce que lui offrait la communauté. « Penser à rebrousse-poil », avait-elle dit, « marcher dans le mauvais sens ». Comme un leitmotiv lancinant, ce thème le poursuivait depuis le début de la journée, depuis qu'il avait laissé les frères sombres. La liberté individuelle, ce mirage que la guilde de l'ombre s'était efforcée de dissiper en lui depuis 20 ans, s'était remise à miroiter, scintillante, à portée de sa main. Qui l'empêchait de s'en saisir, d'abandonner là le destin et de fuir à la première bifurcation vers les cités portuaires, sans donner d'explication à personne, disparaître, se volatiliser, couper les liens qui l'attachaient au maître
et ceux qui l'attachaient aux disciples, retrouver son intégrité et partir. Il fit appel à l'esprit pour dominer ce vertige. La volonté est persistance, la volonté est arc bandé vers la cible, la volonté est chemin tracé. Mon corps est l'arc, mes pieds tracent le chemin, je persiste dans ma volonté. Lorsqu'il sortit de la forêt et qu'il aperçut au loin les murailles d'Aelbâtre et la route principale qui serpentait en direction de la mer, il se mit en position de méditation, parfaitement immobile, les jambes repliées sur elles-mêmes, le dos si droit qu'il avait l'impression que tout son être cherchait l'envol. La lueur pourpre de sa pierre frontale donnait à sa vision des reflets sanglants et il ferma les yeux. Il passa toute la nuit en méditation et, au matin, ce fut d'un pas ferme et le cœur sans tache qu'il s'approcha de la ville basse. Le vertige du chemin et des multiples routes possibles avait pris fin. Il voyait à nouveau le monde à travers un objectif qui donnait un cadre à tout le reste, et cet objectif était simple, s'informer et retrouver Sornar. Le maître alors reprendrait possession de lui, et tous les tourments de sa conscience fondraient comme neige au soleil. Il ne resterait plus que la paix, la merveilleuse unité intérieure de la soumission.